9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour, camarades auditrices et auditeurs, Maître Serran, en ce vendredi saint et très pluvieux, du moins en région parisienne.
Vendredi saint?
Oui. Enfin, vendredi pour la salade,
ah oui,
dans le sens.
Ah oui, parce que
saint, non, enfin, saint, vous voyez ce que je veux dire, mon cher Philippe.
J'ai raté quelque chose.
Bon, maintenant, vous n'avez rien raté, pas d'inquiétude. Là, vous pouvez retirer votre gel là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, je suis ravi d'être parmi vous pour tenter de vous apporter de la joie et de la bonne humeur. Amen, aurais-je presque envie de rajouter, frères et sœurs, j'ai conscience, ça fait un peu gourou comme approche, mon cher Philippe, mais c'est pas grave, car les gourous ont la cote, comme Éric Zemmour, le désormais nouveau gourou de la droite extrême, et il paraît même qu'il envisagerait de se présenter à la présidentielle, et pourquoi pas Jean Messia comme Premier ministre, puisque ces deux-là ne se quittent plus, mine de rien, c'est peut-être son moment, notre Éric, et c'est tout simplement envisageable, puisque le président Macron lui-même est devenu président presque par accident, alors pourquoi pas Zemmour? Faut croire que les planètes sont alignées pour notre bonhomme, il officie tous les jours sur CNews, nous fait part de ses gentilles, il est soutenu par Valeurs Actuelles, et l'ambiance dans ce pays laisse entendre qu'on aimerait peut-être un Zemmour au pouvoir, donc il n'est pas exclu qu'on ait un jour une personne d'origine nord-africaine au pouvoir. Bah oui, la famille Zemmour vient d'Algérie, et c'est peut-être là le point faible de Zemmour, parce que d'abord il s'appelle Zemmour, et en plus, le faciès d'arabe qu'il a, il est plus typé que Maître Serran, c'est fou, donc rien que pour ça, c'est peu probable. Ouais, enfin quand même, il est plus typé que moi, non? Non? Ah bon, d'accord, j'ai une tête de méga arabe, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Non, mais enfin...
D'accord, je vous remercie. Donc, je disais que rien que pour ça, c'est peu probable qu'il devienne président. Bah oui, les Français auraient l'impression de voter pour un bico et ils sont pas prêts pour ça. Il est donc peu probable, je leur dis, qu'il devienne président. Et heureusement, car avec un type comme lui, on n'aurait jamais eu le droit. Par exemple, au retour de Benzema, qu'on a eu le plaisir de voir jouer contre le Pays de Galles 3-0, quand même, quand je pense que la France est délibérément passée du talent de ce type-là. Alors oui, j'entends certains dire « Ouais, mais il a raté un pénalty. » Mais casse-toi, mais qu'est-ce que tu me racontes? Quand tu auras le 10e du talent de Benzema, tu pourras t'autoriser à formuler un début de critique. Bon, en tout cas, il faut croire qu'on est meilleur au foot qu'au tennis, hein, la preuve, Roland-Garros. Et ouais, il n'y a jamais de surprise à Roland-Garros, hein, le français est une vraie tâche au tennis. D'ailleurs, tous les Français, hein, sont éliminés du tournoi. Et ce qui est bien quand même, c'est que le commentateur est toujours motivé. C'est-à-dire que même quand tu joues mal, il est là avec sa fougue. Ah, le français a été exceptionnel, il a été dynamique, mais manifestement, c'était pas suffisant. Oui, on sait. On sait que ça irait plus vite si simplement tu déclarais que les Français sont très mauvais au tennis et on passe à autre chose. La preuve, on nous parle encore de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros le 5 juin 83. C'est comme si on nous parlait encore de la victoire de Marie Myriam à l'Eurovision en 1977. Vous vous en souvenez, mon cher Philippe, que de souvenirs chansons qui étaient l'enfant et l'oiseau. Comme un enfant,
ou l'enfant et l'oiseau,
aux yeux de lumière.
L'oiseau et l'enfant,
ouais, l'enfant et l'oiseau, non? L'enfant ou l'oiseau et l'enfant, et l'enfant.
Ouais, ouais.
Je crois que c'est l'enfant et l'oiseau. En tout cas, c'est l'un des autres.
Trois, deux.
Alors, comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux.
Là, ça monte.
Comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde est... Bon, allez, c'est bon, allez. J'arrête sur cette belle interprétation. Ouais, la belle interprétation de la chanson de Marie Myriam. Et je vous laisse et vous pouvez composer le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de notre Benzema de la radio. Monsieur Philippe Robichon, à vous. Maestro.
L'oiseau et l'enfant.
Alors
ouais, l'oiseau et l'enfant.
Ouais, j'avais dit ça, 77. Moi, j'avais dit ça. Ouais, c'est vieux quand même, non?
Ah ouais, non. Mais à chaque fois, on nous la ressort. Mais
à
bon,
chaque
voilà.
fois, on nous la ressort. Ouais, ça nous permet de revoir Marie Myriam, d'ailleurs.
Hein, oui, tous les ans. D'ailleurs, ouais, je pense qu'elle est contente de ne pas être remplacée, puisque ça lui fait un job, finalement.
Complètement.
Et vous connaissiez ce genre de chanson, Maître Serran?
Bah oui.
Ouais, ça vous rend sympathique.
C'est vrai? C'est gentil.
Je sais pas si vos enfants écoutent, parce que là...
Là, je sais pas.
Là, vous allez vous faire chambrer grave.
Non, mais j'ai vérifié avant, j'ai envoyé un SMS, et ils sont tous à l'école. Et vous me direz, mais ils sont en classe et ils répondent au SMS?
Non, je dirais, ils ont un téléphone portable à l'école.
Bah oui. Je me suis même embrouillé avec des profs, hein, quand on vient retirer le portable à mes gamins.
Ah ouais?
Mais bien sûr. Bah,
c'est beaucoup trop tôt.
Ouais.
Bon. Maître Serran, ceci n'ayant rien à voir avec absolument. Cela et avec vos qualités de chanteur,
franchement, ça va quand même.
Ah, c'est beau.
Ah, c'est gentil.
C'est bon, on va le garder, on le mettra dans le bêtisier.
Ça fait plaisir.
On va parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé
il me semble pas,
encore dans cette émission, c'est la clause de non-concurrence. Alors, on va déjà voir les conditions de validité de cette clause de non-concurrence. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une clause de non-concurrence ?
Bah, une clause de non-concurrence, c'est dans l'hypothèse où vous êtes salarié au sein d'une société, alors quelle que soit l'activité de la société, à partir du moment où vous êtes amené à décider, alors soit de quitter cette société, de démissionner éventuellement, soit même à la suite d'un litige ou de ce qui peut être considéré comme une incompétence de votre part, faire l'objet d'un licenciement, il arrive parfois, et très souvent maintenant, que votre employeur prévoit une clause de non-concurrence, ce qui veut dire tout simplement que si vous travaillez, par exemple, en qualité de coiffeur et vous quittez votre employeur, il vaut mieux éviter de vous mettre, j'allais presque dire, en face de votre ancien patron pour pouvoir exercer. Et pourquoi je parle de cette fameuse clause de non-concurrence ? Alors, elle a d'abord des conditions. C'est-à-dire qu'on peut pas vous dire, si vous sortez de chez moi, vous pourrez plus jamais vous installer ou exercer la même activité que vous exerciez chez moi. Donc, la clause, pour qu'elle soit juridiquement carrée, elle doit évidemment être limitée dans le temps. C'est-à-dire, je peux vous interdire d'exercer la même activité que moi, mais il faut que ce soit limité dans le temps. Ça peut pas être ad vitam aeternam. Cette clause doit être également limitée dans l'espace. C'est-à-dire que je ne peux pas vous interdire d'exercer quel que soit le lieu et quelle que soit la distance entre votre ancien patron, le lieu où vous exercez la première fois et là où vous comptez vous installer. Et c'est une clause qui est évidemment, alors ça semble évident, mais parfois on a des jurisprudences assez surprenantes, qui vise que votre activité. C'est-à-dire que si vous êtes coiffeur et puis vous installez en face et vous jouez l'esthéticienne. Là, évidemment, on peut pas vous tacler, donc vous êtes autorisé à exercer. Alors pourquoi j'ai souhaité évoquer ça ? Parce qu'on a une décision qui est très très surprenante, qui a été rendue par la Cour de cassation et c'est une décision récente qui date du 8 avril 2021. Donc on a une personne qui un salarié qui a fait l'objet d'un licenciement, qui s'est installé, en tout cas qui souhaitait s'installer pour exercer son activité. Et dans cette clause de non-concurrence, donc de son ancien patron, il lui est interdit d'exercer la même activité, mais sans limite de lieu, c'est-à-dire dans le monde entier. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant.
Mais
donc
c'était quoi comme activité ?
Parce alors que, problème c'est que dans
ça dépend si c'est une activité très
non mais quand précise, bien même oui. Quand bien même dans la décision et on ne précise pas la nature de l'activité, mais quand bien même c'est pas lié à une activité spécifique, à partir du moment où on travaille chez un patron et pour des raisons X ou Y, vous quittez ce patron, ça me semble quand même assez particulier de dire que cette activité, vous ne pourrez pas l'exercer, je dis n'importe quoi, si vous travaillez en France, ben, vous ne pourrez pas l'exercer non plus en Allemagne, en Italie, au Japon, enfin, bon, c'est quand même un peu fou, mais ce qui est fou, c'est pas tant cette clause du patron, pourquoi pas, à la limite. Ce qui est fou, c'est que lorsque cette société a constaté que son salarié exerçait la même activité, ils ont saisi en référé, donc en urgence, le conseil de prud'homme, qui a donné raison à la société, c'est-à-dire pour dire à ce salarié, ben non, vous ne pourrez pas exercer la même activité. Il y a un appel qui a été interjeté, on a la cour d'appel qui a confirmé en disant bah oui, effectivement, c'est une clause qui est valable et donc vous ne pouvez pas exercer cette activité, encore une fois, et quel que soit le pays concerné. Et il a fallu aller devant la Cour de cassation. Donc c'est pas rien comme démarche et c'est la Cour de cassation qui a rappelé simplement les bases de cette clause de non-concurrence. Il faut savoir que il n'y a pas une loi qui prévoit cette clause de non-concurrence, c'est ce qu'on appelle une disposition jurisprudentielle, c'est-à-dire ce sont des décisions rendues par les tribunaux, et la Cour de cassation a simplement rappelé les règles, d'ailleurs en étant même surprise que la Cour d'appel elle-même ait considéré que cette clause de non-concurrence était valable, et la Cour de cassation a simplement rappelé que certes, on pouvait pas exercer la même activité, j'allais presque dire, en face de votre ancien patron, mais on ne pouvait pas vous interdire d'aller vous installer plus loin, donc ce qui signifie que la Cour de cassation a apporté des limites à cette interdiction absolue en disant que dans là où les villes où vous avez pu exercer avec votre patron, là éventuellement vous ne pourrez pas installer votre activité similaire, mais c'est limité géographiquement et c'est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous interdire ad vitam aeternam de ne pas vous installer dans la même ville, par exemple, dans le même département, dans la même région que votre ancien patron. Donc c'est assez surprenant qu'on ait encore des décisions de cette nature, mais c'est bien que la Cour de cassation rappelle le droit et qu'elle rappelle notamment le droit, un, au Conseil de prud'homme lui-même, puisqu'il a été très léger dans cette décision, et deux, il rappelle le droit à la Cour d'appel elle-même qui a confirmé la décision en disant qu'effectivement, cette personne ne pouvait pas exercer son activité à travers le monde. Donc on voit bien l'absurdité de la chose. Donc là, la Cour de cassation a simplement rappelé une disposition jurisprudentielle donc qui s'applique depuis que le monde est monde, et je crois que c'est effectivement une bonne chose en la matière.
Est-ce que ça se paye une clause de non-concurrence?
C'est la
A priori, si on vous en colle une, c'est qu'on...
Ben oui, il y a une compensation, c'est-à-dire que je vais vous interdire d'exercer, alors il y a quand même, entre guillemets, une sorte de frustration pour le salarié, donc je dois, moi, compenser cette interdiction qui vous est faite, donc avec, comme dire, ça se traduit en argent, donc ça peut être un capital qu'on verse directement, ça peut être un montant qui est versé par mois, tout en sachant que de deux choses l'une. Si effectivement on est dans le respect de ces critères, mais que le salarié, en tout cas l'ex-salarié, ne respecte pas cette clause de non-concurrence, l'ancienne société peut se retourner contre ce salarié. Alors d'abord pour demander le remboursement de cette compensation, et puis demander des dommages et intérêts. Donc c'est juridiquement possible, encore une fois, mais il suffit pas simplement, entre guillemets, de signer un chèque pour vous interdire d'exercer sur la planète Terre. Et ça revenait à ça, c'est ça qui est un peu fou, c'est-à-dire qu'on a dit à cette personne que sur la planète Terre, vous ne pourriez pas vous installer.
Si on y avait mis le prix?
C'est-à-dire?
Si on avait mis le prix à la clause de non-concurrence, finalement.
Tant bien même. Encore,
vous voyez.
Ouais, non, mais j'entends bien.
Nous, dans nos métiers, alors on a des contrats d'exclusivité.
Ouais.
C'est quoi la différence entre une clause de non-concurrence et une clause d'exclusivité?
Le contrat d'exclusivité.
C'est un peu la même chose, non?
Non, c'est pas la même chose, puisque la clause de non-concurrence, c'est à partir du moment où on s'est séparé.
Ah oui, d'accord.
Voilà, je vous ai licencié, vous avez démissionné. Bon, le contrat d'exclusivité, vous travaillez encore avec cette société, il est certain que...
Alors on pourrait avoir les deux, on pourrait avoir à la fois une clause d'exclusivité et une clause de non-concurrence.
Alors vous pouvez avoir une clause d'exclusivité, mais à partir du moment où votre contrat est toujours en cours, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de la radio officier ici et officier chez le concurrent, ça pourrait poser difficulté, ce qu'on peut comprendre. Donc la clause d'exclusivité en elle-même, elle est juridiquement légitime, on l'entend et on la comprend. La clause de non-concurrence, elle est plus difficile à comprendre. Encore que si elle est limitée géographiquement, si elle est limitée dans le temps, évidemment, on peut l'entendre et le comprendre. Mais je dis la spécificité de cette décision récente de la Cour de cassation étant de rappeler qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un, je le redis, mais quand bien même vous seriez en litige absolu, on ne peut pas interdire à quelqu'un d'exercer la même activité que vous sur toute la planète. Donc c'est ça qui est un peu débile. Mais ce qui est plus débile, c'est qu'encore une fois qu'un conseil de prud'homme et qu'une cour d'appel ait laissé passer ça. Donc la cour de cassation rappelle simplement des règles de base.
Bien. Vous pouvez poser toutes vos questions, alors pas forcément sur la clause de non-concurrence, mais peut-être d'ailleurs que vous en avez une dans votre contrat. Regardez, je sais pas si tout le monde est très informé qu'il a une clause de non-concurrence.
C'est peu probable.
Dans son contrat.
Ouais, honnêtement, c'est souvent
des choses qu'on découvre après.
C'est exactement ça. C'est à partir du moment où il y a eu le litige ou la séparation, toi, où vous êtes en difficulté avec votre patron, qu'on vous balance en disant, on vous rappelle que, mais c'est rare qu'on, d'ailleurs, même qu'on vienne voir l'avocat avant pour dire j'ai cette clause, est-ce que ça pourrait poser difficulté ou pas?
Voilà, et si vous avez une question juridique à poser à Maître Serran, vous composez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran qui est là tous les vendredis, Maître Serran qui répond à vos questions juridiques. Alors si vous avez une question à poser à Maître Serran, vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, ça c'est si vous voulez passer à l'antenne Et si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, vous pouvez appeler Maître Serran sur son téléphone portable.
Absolument. Après l'émission, évidemment.
Oui, parce que il y a que l'imam qui fait les deux.
C'est vrai. Non, moi, je peux pas. J'ai pas les compétences de l'imam, mais joignable.
Oui.
Au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Et si c'est trop long et que ça a besoin de, vous avez besoin d'envoyer des pièces, hein, vous pouvez lui envoyer un mail également.
Absolument. Sur Maître .serhane, S-E-R-H-A-N-E, @gmail.com.
Alors, nous avons Omar qui est avec nous. Omar, bonjour et bienvenue.
Bonjour. Bonjour, j'ai juste une question pour Maître Serhane.
Oui, c'est bonjour bien. Omar.
Il est là.
Allez-y.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je m'appelle juste parce que je suis naturalisé. Je suis ici depuis 6 mois en ce moment. Et je pense de se marier à l'étranger. Ils entendent quand même, c'est interdit de se marier, il faut attendre 2 ans, jusqu'à 5 ans.
Non, pas pour vous marier, Omar. Vous pouvez vous marier au lendemain de votre nationalité française ou pas, mais c'est même pas lié. Donc là, il y a pas de difficulté.
Il y a pas de délai.
Non, il y a pas de délai. Et heureusement. Donc à partir du moment où vous mariez, ces histoires de délai, c'est essentiellement pour faire venir madame, pour qu'elle soit évidemment en situation régulière. Donc,
oui.
Vous pourrez faire la procédure, mais il n'y a personne, Omar, qui va pouvoir vous reprocher de vous être marié, entre guillemets, on va dire, rapidement, tout de suite après être devenu français, il n'y a pas de problème. Et vous êtes français, naturalisé depuis combien de temps ?
9 mois.
Mais encore une fois, il n'y a pas de... Vous auriez pu engager les démarches même au lendemain de l'attribution de la nationalité française. Donc non, il n'y a pas de difficulté, Omar, par rapport à ça. Il n'y a pas de délai à attendre.
Voilà, c'est pour ça que j'ai une doute, parce que j'ai appelé quelqu'un, un juriste à l'association. Il m'a dit non, il faut attendre 12 ans. C'est interdit si vous êtes marié à l'étranger en ce moment. Même si en France, si vous êtes marié avec quelqu'un qui n'a pas de papier, ils vont retirer votre carte.
Non, encore une fois, à vous, on ne va pas vous retirer votre carte. On pourrait éventuellement se poser la question pour la personne avec qui vous allez vous marier. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire que cette personne se marie avec vous parce que vous êtes de nationalité française et parce que pour elle, ce sera plus simple, on va dire, avec des gros guillemets, d'être régularisé. Mais il n'y a pas de reproche à vous faire, vous concernant.
Et une fois que vous êtes naturalisé, de toute façon, est-ce qu'on peut vous reprendre votre nationalité ?
Alors, on peut évidemment vous reprendre.
Ah oui,
bien sûr. Ouais. Alors, c'est vrai que quand ça arrive aux personnes, elles sont toujours surprises. C'est-à-dire que l'administration est assez curieuse. C'est-à-dire que on a parfois des clients qui sont français depuis X temps, et pour des raisons assez mystérieuses, l'administration s'est repenchée sur le dossier et puis elle constate qu'en fait la nationalité a été attribuée par erreur. Ce qui peut arriver, hein, on peut l'entendre et le comprendre, mais quand ça vous arrive à partir de X années et vous dites à l'intéressé, vous êtes convoqué, vous venez à la préfecture, vous nous restituez votre pièce d'identité française, ça peut faire mal, et ce d'autant plus que les autorités françaises sont un peu ingrates. C'est-à-dire que si je vous retire votre nationalité française, je vous remets pas spontanément un titre de séjour. Donc la personne passe du stade où elle est française au stade où elle devient en situation irrégulière.
Voilà.
Mais ça, Omar, vous, ça ne vous concerne pas. Il n'y a pas de difficulté. Sauf, alors voilà, on va évoquer cette option. Sauf si on a l'impression que là, vous vous mariez avec cette personne pour qu'elle soit régularisée, vous divorcez le lendemain, vous vous remariez avec une autre personne. Vous voyez, en gros, c'est-à-dire que il faudrait que vous soyez à l'origine quasiment d'un trafic pour attribuer la nationalité française. Mais si votre mariage est entre guillemets classique, cohérent, il n'y a pas de sous-entendu ou de violation de la loi, il n'y a personne, Omar, qui va venir vous embêter si vous décidez de vous marier, que ce soit au pays ou sur le territoire français.
C'est pour ça que je vais appeler, parce que je vais se marier au bled, c'est pour ça. C'est la première mariage pour moi, c'est pour ça. Et je suis un petit qui est dans mon pays.
Bon, soyez rassuré, Omar.
Il n'y a pas de difficulté. Moi, j'ai toujours... Bon, mais ça n'a rien à voir avec l'aspect juridique, mais j'ai toujours du mal à comprendre les personnes qui se marient au bled. Parce que vous avez bien compris que ce sera quand même plus compliqué de faire venir madame que, évidemment, que si vous vous mariez avec une personne qui est sur le territoire français. Après, voilà, ça, j'y suis confronté assez...
C'est autre chose.
Ouais, assez souvent, mais voilà, hein, comprenez bien qu'il suffit pas simplement de dire maintenant on est marié pour que madame se voit attribuer un visa long séjour pour venir s'installer sur le territoire français. C'est-à-dire que après, ça galère un peu quand même au niveau administratif.
Oui.
Voilà, donc ça, il faut le savoir.
Ah oui, c'est normal. Je comprends jamais le problème de ça. Je peux juste ça. Bon, il m'a dit, le monsieur, il ne faut pas aller, il faut attendre. Donc, c'est ça que je suis inquiet. C'est pour ça.
Maître Serrain, vous a pas de répondu, Omar.
Il n'y a pas de difficulté, Omar.
Mariez-vous.
Ok, c'est parfait. Merci, maître. Merci à vous.
Merci, Omar.
Merci, Omar.
Merci beaucoup. Au revoir, merci.
Alors, nous avons Belkacem qui est avec nous. Belkacem, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, maître.
Bonjour, Belkacem.
J'ai une question concernant ma mère. Elle est avec moi ici en France, ça fait un an et demi.
Elle est de quelle nationalité, votre maman ?
Elle est de nationalité marocaine.
D'accord, donc elle est venue avec, avec un visa, ça vient du pays ?
C'est ça, un visa de
pays. Bon, et elle s'est maintenue ?
Elle est restée ici avec moi jusqu'à ce jour, elle est encore là avec moi, ça fait un an et demi. Elle a 76 ans, et c'est moi en fait qui la prenais en charge, même quand elle était au Maroc.
D'accord, c'est-à-dire qu'au Maroc, là, au pays, il n'y a plus personne qui pourrait éventuellement s'occuper de votre maman.
J'ai personne, j'ai mon père qui est décédé, ma sœur qui s'occupait d'elle, elle est décédée il y a 3 ans, et j'ai 3 sœurs qui n'ont pas les moyens, ils ont une décharge administrative qui ne peuvent pas s'en occuper de ma mère. Dans le cas, je reste que moi le seul enfant qui la prend en charge.
Bon, c'est entre guillemets assez classique en la matière, donc ça signifie quand même qu'il faudra, si vous l'avez ou si votre maman l'a jamais fait, quand même saisir les autorités préfectorales pour formaliser un dossier de demande de régularisation. Vous-même, vous êtes de nationalité française ou pas ?
C'est ça, tout à fait. Je suis de nationalité française. D'accord. Ma conjointe de nationalité française. Je suis propriétaire.
Bon, comme ça, a priori, vous réunissez toutes les conditions, parce qu'il faut, alors évidemment, d'abord justifier que votre maman est ou serait isolée au pays. Alors, quand je dis isolé, il y a aussi une connotation financière, c'est-à-dire que on peut être isolé au pays, mais les enfants peuvent vous aider à contribuer à votre vie de tous les jours. Si vous me dites que vous avez des sœurs et qu'elles sont dans des situations délicates, donc c'est un argument qu'il faudra mettre en avant, et puis on vous demandera évidemment de justifier d'abord de vos situations financières, à vous et à votre épouse, si vous travaillez ou pas, et s'il y a évidemment de la place pour accueillir votre maman dans les meilleures conditions, donc il faudrait à minima une chambre pour elle, vous voyez, qu'elle partage pas la chambre avec le ou les enfants, mais voilà, si vous réunissez ces conditions-là, alors il n'y a rien qui interdit d'en faire la demande. Maintenant, vous avez bien compris que, même chose en matière de droit des étrangers, donc on peut faire les demandes, et ça veut pas dire que l'administration spontanément va accepter et dire « oui, ok, madame, vous êtes la bienvenue, il n'y a pas de problème », donc ce sera quand même une bataille, puisque le vrai reproche qui sera fait à votre maman, c'est dire, mais attendez, vous n'avez pas joué le jeu. Je vous donne un visa pour venir en qualité de touriste. Et puis, maintenant, vous changez les règles, vous vous maintenez, donc, en violation du visa, et puis vous demandez à avoir un titre de séjour. Donc, c'est vrai qu'avec les autorités préfectorales, il y aura une bataille là-dessus. Selon moi, c'est peu probable que la préfecture vous donne satisfaction. Ça pourra éventuellement se gagner, mais devant un tribunal administratif. Donc il faudrait aussi prévoir cet aspect-là et préparer votre maman psychologiquement, puisque tant que cette procédure, qui risque d'être longue, monsieur, tant qu'elle n'est pas terminée, vous avez bien compris que si votre maman retourne au pays, elle ne reviendra plus. C'est-à-dire les autorités françaises ne lui feront plus confiance, ne lui donneront plus de visa. Et souvent, quand je dis ça, on me dit, bah, c'est pas grave, je vais passer par un autre État européen de l'espace Schengen. Ben non, c'est en réseau. C'est-à-dire qu'après, si demain, elle demande un visa via l'Espagne, l'Italie ou autre, elle sera blacklistée. Donc, il faut quand même la briefer là-dessus. Parce que les parents, ce qui est normal, sont, surtout à partir d'un certain âge, impatients. Et donc, il faudra lui dire que tant que cette procédure n'est pas terminée, ça va être difficile de retourner au pays. En tout cas, la France la laissera retourner au pays, mais elle ne reviendra plus.
C'est ça, exactement, tout à fait.
Voilà, mais voilà, hein, donc ça va être une vraie bataille. C'est peu probable que ça se règle que devant les autorités préfectorales.
Est-ce que maître, vous prenez ces dossiers, je vous contacterai en privé?
Ah oui, bien sûr, voilà, moi, c'est, comme dirait l'autre, c'est mon domaine de prédilection, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus.
Très bien. Bon, vous en occupez de tout, de rendez-vous et tout, parce que actuellement les rendez-vous, c'est que les avocats.
Oui, c'est alors d'abord, pour être clair, l'avocat qui vous dit, écoutez, prenez l'avocat pour avoir un rendez-vous, se ferait mousser inutilement. Les avocats ont accès au même outil informatique que monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire qu'on se connecte sur la préfecture lambda, on essaie d'obtenir un rendez-vous. Le fait de dire « je suis avocat », honnêtement, la préfecture s'en fout. C'est-à-dire que la réponse qu'on a tous, c'est de dire « actuellement, il n'y a pas de rendez-vous disponible ». Alors, ce qu'on fait certains confrères, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez imprimer ces refus de rendez-vous, deux ou trois refus, il n'y a rien qui interdit de saisir les autorités préfectorales par écrit, voire même d'engager une procédure de référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence, auprès d'un tribunal, pour que le tribunal oblige les autorités préfectorales à faire leur boulot.
Très bien.
Mais ce serait pas sérieux de ma part de vous dire, monsieur, vous ne réussissez pas à prendre un rendez-vous via Internet, venez me voir, l'avocat que je suis va pouvoir le faire. Et je le redis, l'avocat qui vous dit ça, il vous dit des bêtises. On a les mêmes outils informatiques que monsieur et madame tout le monde. Après, on peut les saisir avec un courrier spécifique. Mais si c'est que pour l'histoire du rendez-vous, je préfère le dire tout de suite. Vous ne dites pas, je vais voir l'avocat, j'aurai un rendez-vous tout de suite. C'est faux.
Non, franchement, c'est pour s'en occuper de dossier.
Non, voilà, bien sûr. Sur cet aspect-là, il n'y a pas de problème.
Non, quand j'ai parlé de rendez-vous, je sais que la procédure telle que vous me l'avez dit, c'est exactement ça. Il n'y a aucun problème. Parce que moi, j'ai essayé par ce billet de site. En fait, il est toujours saturé. Il n'y a plus de rendez-vous.
Non, mais tout le temps. Et ce qu'il faut, dans ce cas-là, c'est quand même imprimer les demandes qui ont été faites. Ça nous permet d'abord de justifier que quand on les saisit par écrit, c'est qu'on peut pas faire autrement, parce que très souvent, quand on les saisit par écrit, on reçoit une réponse assez rapide pour dire, attendez, faites ça via Internet. Bah, sauf que quand vous le faites une fois, deux fois ou dix fois et que ça ne passe pas, eh ben, au bout d'un moment, encore une fois, on les saisit avec l'ancienne méthode, c'est-à-dire par écrit, et puis on va compter les délais. Et si au bout de quatre mois, il n'y a pas de réponse de la part des autorités préfectorales, on peut se poser la question de savoir si c'est pas, comme on dit, un refus implicite. Ce qui nous autorise à continuer la procédure devant un tribunal administratif.
Ok, très bien. Dans ce cas-là, maître, je vous contacterai moi après l'émission pour prendre rendez-vous.
Avec plaisir, il n'y a pas de difficulté.
Merci beaucoup, maître. Merci.
Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Merci, Belkacem. Si vous aussi, vous avez une question à poser à maître Serran, vous patientez quelques instants. Et maître Serran est de retour après une courte page de publicité. Vous composez le numéro du standard 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, avec Maître Serran qui est avec nous jusqu'à 10h. Je rappelle qu'à partir de 10h, vous retrouverez l'imam Abdelali Mamoun pour l'islam au présent. En attendant, si vous avez une question juridique à poser, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Alors nous avons Nordine qui est avec nous. Nordine, bienvenue.
Oui, allô ?
Oui, bonjour Nordine.
Bonjour.
Bonjour Nordine.
Moi, je vous appelle pour la clause de non-concurrence.
Ah.
Voilà, c'est bon. J'avais un contrat avec un employé qui avait mis la clause de non-concurrence. Alors, je lui ai envoyé une lettre recommandée en lui disant que il devait me payer 500 euros par mois plus 10% chaque mois pendant 5 ans. Et puis, il m'a répondu que il me libérait de cette clause.
C'était vous qui étiez salarié ou c'était vous étiez
patron? Non, c'est moi qui étais salarié.
C'était vous qui
étiez salarié. D'accord. Et donc la réponse de la société, c'est dire que cette clause, à ses yeux, ne s'applique pas. Donc vous pouvez, entre guillemets, vous installer où vous souhaitez.
Voilà, oui.
Alors c'est la contrepartie. C'est-à-dire que j'ai le droit, moi, en qualité de patron, de vous imposer le respect de cette disposition, encore une fois, si elle est prévue dans le contrat ou dans la convention collective, et en échange, il y a une compensation financière. Maintenant, à partir du moment où la société elle-même dit, alors certes, il y a cette clause, mais je vous en libère, la contrepartie étant que si je vous en libère, j'ai pas à vous verser une compensation financière.
Oui, mais il avait un délai d'un mois pour me libérer, mais...
Ah, après, voilà, ça c'est autre chose. Est-ce que effectivement ça a été fait dans le timing? Est-ce que le délai prévu par le contrat est, entre guillemets, impératif ou pas? Ça c'est autre chose. Maintenant, si on est dans des délais impératifs et il n'y a pas le respect du timing... Bon, il y a rien qui vous interdit de prendre acte et de dire effectivement, vous dites que vous me libérez de cette clause, mais je considère que les conditions ne sont pas réunies. Et puis, vous savez, en règle générale, quand on a une clause dans un contrat, c'est-à-dire que la personne, quand elle sent qu'elle va se séparer ou quand elle va donner sa démission, elle anticipe déjà. Si c'est dans le contrat, on se dit, je vais pas forcément faire des recherches ou créer une activité dans le secteur puisque j'ai cette clause de non-concurrence. Donc on va anticiper et puis essayer d'avoir un projet, mais dans un secteur au-delà de ce qui était de ce qui vous est interdit pour vous installer. Donc si vous avez raisonné par rapport à ça, et si hors délai, comme vous dites, un délai qui serait prévu par votre contrat, on vous dit bah non, tiens, en fait on a réfléchi X temps après, bah maintenant vous êtes libéré de cette disposition, vous pourriez demander donc l'application stricte du contrat. Après, bon, je vous dis évidemment, ça dépend aussi de tel ou tel contrat, du respect du timing ou pas. Donc il y a quand même des petites conditions à remplir. Et si ces conditions sont écrites noir sur blanc et si elles n'ont pas été respectées par votre employeur, vous pourriez éventuellement contester cet aspect-là.
D'accord.
Et d'ailleurs, vous êtes revenu vers lui ou pas? Pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais vous êtes revenu vers lui?
Oui, je suis revenu vers lui. Bon, il refuse catégoriquement de me verser les 550 euros par mois pendant 5 ans. Voilà. Je l'ai attaqué au prud'homme.
Ouais.
Bon, il y a eu là, disons, on va dire, le juge était un petit peu l'avocat du diable, en disant oui, mais pour le peu de temps qu'il est resté, est-ce que ça vaut les 34 000 euros réclamés?
Ouais.
Mais moi, j'ai simplement répondu, un contrat, c'est un contrat, c'est écrit noir sur blanc, il n'a pas respecté les délais, c'est à lui de faire en sorte que ça soit dans les normes. Il
a la décision normes. A été rendue ou pas? Ou pas encore?
Pas du tout, pas encore. Pas du
d'accord.
Tout.
Oui, alors c'est vrai que... Alors pourquoi est-ce que... Les conseillers prud'homaux raisonnent comme ça, parce que les conseillers prud'homaux sont en partie des salariés et en partie des employeurs. C'est-à-dire qu'après, je sais pas qui a présidé votre audience, mais c'est un raisonnement d'employeur en disant bon d'accord, il y avait peut-être une clause, mais et vous l'avez vous-même dit, compte tenu du timing entre guillemets, c'est raisonnable. Et puis il vous aurait pas fait traîner trop longtemps pour dire écoutez, je vous libère de cette clause. Après, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a un contrat, le contrat doit être exécuté de bonne foi. Donc, ce serait intéressant éventuellement que vous puissiez nous recontacter lorsque la décision sera rendue. C'est un délibéré qui est prévu pour longtemps ou pas?
Septembre.
Ah ouais, quand septembre. Même. Ouais. Bon, écoutez, comme dire-le, si Dieu nous prête vie d'ici là, n'hésitez pas. Ce sera intéressant de savoir ce que le Conseil de Prud'homme a pu vous dire.
D'accord, ok. Bon, d'accord. Bon, je recontacterai dès que j'ai...
du nouveau. Écoutez, avec plaisir.
D'accord, merci.
Merci à vous.
Nordine, pour votre appel. Alors, nous avons Wassila qui est avec nous. Wassila, bienvenue.
Oui,
là. Wassila.
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est à vous.
Oui, bonjour Christophe, bonjour Monsieur Sérène. Je vous explique brièvement.
On va reprendre deux secondes, excusez-moi, moi aussi là. Vous avez dit bonjour qui? Christophe?
Monsieur Sérène.
Non, alors Monsieur Sérène, c'est normal encore que. Faites l'effort d'aller jusqu'à Maître Sérène, mais allez. Mais sinon, non, Christophe, vous avez dit, c'est ça?
Oui.
D'accord, ok. Je pensais que c'était Philippe. Mais bon, si c'est Christophe.
Moi, j'aime bien Christophe. Ouais,
vous aimez bien Christophe? Franchement, d'accord. Ok.
Appelez-moi comme vous voulez. Appelez-moi, tout à fait.
Désolée pour ce. Je rebaptise.
Moi, je vous appelle bien Wassila. Donc,
Oui, autant pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'étais.
C'est pas grave.
Et désolé, moi. Philippe.
Non, avec plaisir. Maître Sérène, vous êtes taquin.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça.
Mais ça, Maître Sérène est taquin.
Voilà.
C'est un autre sujet. Bien. Wassila, 1, 2, 3, c'est à vous.
Exact, merci. Donc voilà, je t'explique, on est hébergé chez un tiers, chez un parent, et on voudrait faire les démarches pour s'ajouter dans le bail. on ne connaît pas du tout les démarches. On voudrait savoir.
Alors, c'est un bailleur privé, c'est un service HLM.
C'est HLM social.
Ouais. Et vous êtes qui par rapport à cette tierce personne?
Alors, moi, c'est le mari de mon le père de mon mari, pardon.
Alors, c'est le père de votre mari. Ouais.
Voilà. Il s'est retrouvé veuf, donc on s'est rapproché de lui parce que le logement est grand. Du coup, on est reparti lui donner un coup de main. Et lui, il arrive à un âge avancé. Et on voudrait savoir si on pouvait s'ajouter dans le bail.
Alors, sur le principe, il n'y a rien qui l'interdirait. Maintenant, oui. ça va être aussi le bon vouloir du bailleur. C'est-à-dire qu'il pourrait, pour des raisons X ou Y, dire « Ben non, voilà, moi j'ai un contrat avec monsieur et puis je rajoute personne. » Pour la simple et bonne raison. Oui. Alors, pardon d'être... d'envisager des choses peut-être tristes, mais s'il arrive quoi que ce soit à votre beau-père... Oui. Ça signifierait évidemment que le bail va continuer avec vous. Vous voyez, si moi, société, j'ajoute votre nom. Donc c'est pas forcément, j'allais dire, entre guillemets, pour eux intéressant, c'est-à-dire que on considère que bon, il y a un bail avec monsieur, alors demain il décide de partir ou moi de résilier le bail s'il y a des difficultés, mais au décès c'est terminé et puis on donnera éventuellement, on va attribuer le logement à une autre famille. Si je rajoute quelqu'un d'autre, évidemment vous aurez par définition les mêmes droits que votre beau-père, et parfois ça freine un peu les sociétés. Et puis même chose, si c'est une société, si c'est un service HLM, il y a des conditions financières. Alors est-ce que vous êtes dans les clous concernant les conditions financières, les conditions de revenus?
Oui, déjà de 1, et en plus on a des enfants et ça correspond au nombre d'enfants, les pièces correspondent à la famille présente.
Il y a un raisonnement qui peut sembler curieux, hein, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que les services HLM n'aiment pas se voir entre guillemets imposer des membres de la famille. Ouais, c'est pas du droit, c'est leur raisonnement. Donc d'ailleurs, vous avez déjà essayé de les approcher un peu pour voir pour prendre la température.
Oui, ils nous demandent de se déclarer au niveau des impôts. La seule démarche, c'est tout. Après, ils nous ont dit lorsque papa veut abandonner ou viendrait à décès, là, il faudrait faire la démarche écrite.
Ça ne répond pas à la question. C'est, est-ce que vous leur avez dit, voilà, j'ai mon beau-père qui a un bail et puis on aimerait rajouter...
C'est vraiment deux éléments déclencheurs pour eux. Ce serait soit un décès ou un abandon de domicile de sa part.
Mais alors la difficulté, c'est que demain il lui arrive quelque chose, c'est-à-dire il décède, le bail est par définition terminé, rompu, et donc aussi il décide de partir, même chose. C'est-à-dire que là, vous auriez encore moins de possibilités, j'allais presque dire juridiques, de vous imposer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai un contrat avec Monsieur X et que Monsieur X dit j'ai envie de partir ou que Monsieur X dit ou que Monsieur X décède. Il n'y a aucune raison que le bailleur dise « s'il y a des membres de la famille qui seraient intéressés, on est prêt à les prendre ». C'est un peu bizarre la réponse qu'il vous a apportée. Hein.
Donc au niveau juridique, moi je dois faire des démarches
Comme dit l'autre, la démarche se fait avec l'accord de la partie adverse. C'est-à-dire que si vous leur dites « voilà, on aimerait officiellement que notre nom apparaisse sur le bail », et si on vous dit « non, là, c'est terminé, ça s'arrête là ». Après, vous pouvez... éventuellement vous faire domicilier par votre beau-père, mais ça c'est autre chose. Quand on se fait domicilier, si demain il lui arrive quoi que ce soit, le contrat de bail est terminé, donc on vous invitera à quitter les lieux. Vous voyez, il y aura rien juridiquement qui va vous lier à la société.
D'accord.
Donc ils ont le droit de vous dire non.
D'accord,
oui, voilà. Et en règle générale, ils disent non. C'est curieux, mais c'est vrai qu'ils considèrent, ils se considèrent un peu, s'ils étaient amenés à accepter, comme, j'allais presque dire, obligés ensuite, pardon pour le terme qui est pas joli, mais de vous garder. Donc, les services HLM, ils ont des milliers de dossiers, et puis on considère, qu'il y a des familles qui seraient prioritaires ou pas. Donc, c'est peu probable qu'ils vous donnent le feu vert. Hein.
D'accord. Ok, merci. Merci.
Voilà, voici là.
Merci
à vous pour votre appel.
Merci,
Monsieur Serran. Ah, voici là. Est-ce que vous êtes d'origine algérienne?
Non, pourquoi?
Vous êtes d'où, Wassila? Parce que Wassila, c'est un prénom plutôt algérien. Vous êtes d'où?
Non, marocaine.
C'est marocaine. Parce que c'est pas courant, Wassila. Hein. Vous en connaissez beaucoup?
Si. Ouais. Ah, oui, c'est un prénom qu'on trouve même dans le Coran. Donc,
Wassila.
Ouais. C'est Al-Wassil. Vous pouvez demander à.
Ah, voilà, on va demander à l'imam qui arrive.
À l'imam, voilà, tout à fait. C'est Al-Wassil. C'est un degré au paradis, Al-Wassil.
Voilà. Vous êtes la deuxième Wassila que je connais. Voilà.
Ah, d'accord. Ouais.
Personnellement. Maître Serra, nous en connaissez d'autres des Wassila?
Non, mais en plus, j'ai pas envie.
Mais que voilà.
Ah, fallait pas répondre ça.
Non?
Ah, ouais, bah
ah,
non.
Bon. Oui, Wassila, vous aviez raison. Mais non, mais c'est son côté ronchon qui fait tout son charme, en fait.
Faut faire attention, parce qu'entre ronchon et vieux con, Il n'y a pas beaucoup de... Ouais, faut faire attention, hein.
En tout cas, Wassila, merci pour votre sourire.
Merci, Wassila.
Merci pour votre bonne humeur, merci.
Merci, Wassila, au revoir.
Merci, au revoir.
Alors, j'aimerais préciser, parce que tout le monde pense que Maître Serran est premier degré. Mais non, Maître Serran fait de l'humour, souvent. Alors, c'est vrai que...
Alors,
ça peut être une incompréhension. C'est avec vrai.
Je suis effectivement incompris. On pourrait faire des heures d'émission,
oui.
Voilà, pour dire pourquoi. Je suis incompris.
Mais à quel niveau vous êtes incompris, Maître Serral?
Alors pas au niveau juridique, évidemment. J'espère
parce que c'est mieux.
Ouais, bah voilà, oui, c'est exactement ça. Donc au niveau juridique, je suis au top. Donc voilà, vous pouvez interroger tous les magistrats et je suis une référence, voilà, pour les juges et on me cite tout le temps. Voilà. Et maintenant, c'est vrai.
C'est vrai que vous avez une modestie légendaire qui ne gâche rien.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Ouais.
Maintenant, c'est vrai, quand il m'arrive parfois de critiquer gentiment les femmes.
Ouais.
Voilà, hein, j'oublie pas que j'ai une épouse, que j'ai une fille. Donc voilà, et j'ai un grand respect pour les femmes, mais c'est vrai qu'on a certaines femmes qui ont un balai dans le fiacre et qui...
Ma bouteille d'eau,
ouais, ah oui, c'est
plus possible.
Ils critiquent les femmes. Mais on rigole, mesdemoiselles et mesdames. Et les grands-mères, on rigole.
Bon, voilà. Mais critiquer les hommes, il y a suffisément. Critiquer l'imam.
Mais c'est ça, voilà, critiquer l'imam, quoi, son gros kölsch, ses cheveux peints, là, puisque en ce moment, il a
arrête pas de dire... Non, il n'a pas cédé.
Non, mais ça va venir. Un jour, il va venir avec une tête toute chelou, là, je sais pas ce qu'il a avec les cheveux. Ouais. Bon, c'est top, parce que j'en ai pas, hein, que je dis ça, hein, c'est le mec jaloux, en fait.
J'imagine Madame Mamoun avec ses gants, en train de faire la couleur à l'imam.
La couleur à l'imam.
Non, il va pas le faire.
Non, mais il est beau comme ça.
Il est beau.
Moi, je l'aime comme ça.
Comme il écoute.
Franchement.
Ça va lui faire plaisir.
Non, mais c'est vrai, vraiment, je l'aime comme ça.
Ouais.
Et c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment, enfin, il le sait, j'espère.
Oh là, si vous ne faites pas payer un chocolat à la pause.
Ouais, bah au minimum quand même.
Je m'y connais pas. Alors j'appelle à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas pu passer aujourd'hui que vous avez la possibilité d'appeler Maître Serran qui donne assez régulièrement son numéro de portable mais que vous êtes nombreux à demander. Donc Maître Serran, on vous joint à quel numéro?
Au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà. Et le plus simple, c'est aussi parfois de lui envoyer un mail. Hein,
oui, aussi, ça. Oui, ouais. Sur maître.serhane@gmail.com.
Bien, Maître Serhane, vous êtes en week-end, qu'est-ce que vous allez faire avec ce beau week-end d'orage?
Je sais pas, en fait. Alors, si.
Est-ce que vous êtes retourné au cinéma?
Non.
Non?
Non, mais moi, je m'en balèque du cinéma.
Non, mais avec
plein de monde et tout. Non, je veux même plus avec les enfants. Vous allez avec les enfants, comme ça, tu vas avoir des dessins animés tout pourris, ça vous coûte une fortune pour un truc que vous aimez pas. Et je dors souvent au cinéma. C'est-à-dire, je m'endors comme un vieux. C'est pas pitoyable, ça?
Mais c'est parce que c'est le film qui vous plaît pas.
Non, mais d'accord. Mais bon, quand même, j'ai payé. Je me dis, je vais pas fermer les yeux à la pub et je me réveille quand les enfants, ils me secouent en disant le film est fini. Non, ça fait pas ça. Ça fait en plus vieux, quoi. Le vieux qui
s'endort, qui pique du nez au cinéma.
Ouais, c'est exactement ça. C'est presque pitoyable. Ouais. Donc j'y vais plus au cinéma.
Bon.
Voilà. Les enfants, vous m'écoutez, j'irai pas au cinéma. C'est dit.
Dans un instant, il va jamais au cinéma, c'est l'imam Abdelali Mamoun, parce qu'il n'y va pas, parce qu'il fait du cinéma aussi. Et donc, l'imam Abdelali Mamoun sera là dans un instant et vous pourrez lui poser toutes vos questions au 01 53 48 3000.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.